Boire de l'eau, c'est bon pour la santé. On préconise d'en boire au moins 1,5 litre par jour. Mais notre mode de vie n'est pas sans impact sur la qualité de l'eau du robinet. Nos lacs renferment tout un tas de résidus chimiques d'origine pharmacologique ou issus de l'agriculture notamment. Des résidus que les services industriels ne parviennent pas toujours à filtrer complètement. Aussi, nous avons voulu savoir ce que contenait exactement un verre d'eau et la nature des micropolluants présents, Sophie Proust.
Oui, d'autant que la salubrité de l'eau courante est une exigence de la législation suisse. L'article 275 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires stipule que l'eau potable doit être salubre sur le plan microbiologique, mais aussi physique et chimique. Et donc, en collaboration avec nos confrères du magazine Bon à Savoir, nous avons demandé les analyses de l'eau au service de l'eau et de Genève et de Lausanne.
Et un choix guidé par notre première enquête l'année passée, en mai 2011, sur l'eau du robinet, qui avait révélé justement des taux de substances indésirables particulièrement élevés dans les échanges de la commune de Renan.
Oui, alors une commune qui s'alimente à l'eau du Léman, ce qui est aussi le cas de Genève et de Lausanne.
Le lac Léman qui reçoit donc effectivement de notables rejets chimiques, des pesticides ou des résidus de médicaments, d'où la présence de micropolluants. Qu'a-t-on trouvé exactement en analysant cette eau, Sophie ?
Eh bien, malgré les filtres d'épuration, on va retrouver des micropolluants, mais toujours en dessous des limites autorisées. Genève a mis en place des filtres à charbon qui filtrent mieux. Néanmoins, on trouve 9 traces d'hôtes indésirables à Genève-Prieuré et 10 à Saconnet-d'Arve et 12 à Lausanne-Bray, 45 Lausanne-Lutry et 46 Lausanne-Saint-Sulpice.
Quel type de polluant ?
Bon, je vais vous épargner, si vous le voulez bien, la lecture des tableaux d'analyse fournis, mais on décèle quand même 3 grandes familles. On a les pesticides, dont un génotoxique qui agit sur les molécules d'ADN avec des mutations qui peuvent enclencher un processus tumoral. Il s'agit du propizamide. On a des médicaments, dont un antidiabétique, le metformin, de l'acide salicylique. L'aspirine, en fait, est un dérivé de l'acide salicylique. On trouve aussi un antiépileptique et puis un troisième groupe qu'on va appeler autre. Alors, qu'est-ce qui se cache sous autre ? Bah, c'est par exemple des produits de contraste de rayon X, des anticorrosifs, des PFC, donc les composés fluorés. Alors, ce sont des substances chimiques qui entrent dans la composition de revêtements antiadhésifs et résistants à la chaleur. C'est quoi, globalement ? Le téflon. On a des matières de type Gore-Tex également, des retardateurs de flamme qu'on trouve dans les ordinateurs. Ce sont des perturbateurs endocriniens.
Oui, ça n'est pas très appétissant tout ça. Les doses limites ne sont pas dépassées certes, mais à quelle concentration les trouve-t-on ?
Bon, à des doses minimes. Les substances détectées se mesurent en nanogrammes, ce qui représente un milliardième de gramme, ou encore, pour être un petit peu plus parlant, et pour reprendre une image d'Hervé Guinan, responsable qualité de l'eau au service industriel de Genève, un gramme de sucre dans 400 piscines olympiques.
Oui, donc de très petites quantités, c'est plutôt rassurant.
Oui, alors disons qu'on est dans les normes admises, mais on peut aussi poser la question de la dose. Est-ce que c'est toujours et pour n'importe quelle substance un critère pertinent aujourd'hui ? Il faut savoir que certains scientifiques, sur notamment les perturbateurs endocriniens, estiment qu'on ne peut pas se contenter, ou plus en tout cas se contenter, de la remarque de Paracelse, qui est un célèbre médecin suisse du 15e siècle. Paracelse qui disait « c'est la dose qui fait le poison ». D'autres notions peuvent entrer aussi en ligne de compte, comme la durée d'exposition. Bon, on le disait tout à l'heure, il est recommandé de boire entre 1,5 litre d'eau à 2 litres par jour. Bah, comment cette réalité d'exposition régulière est-elle étudiée ? Et puis enfin, que sait-on de l'addition de toutes ces substances ? On a beaucoup parlé d'effet cocktail, la toxicité des mélanges qui n'additionnent pas les problèmes, mais les multiplieraient. Ben, par exemple, des phtalates en présence de fongicides et d'un médicament augmenteraient les effets des 3 substances prises séparément. Donc, on peut aussi dire qu'on trouve ce qu'on cherche, mais qu'en est-il des micropolluants qu'on ne cherche pas ?
Oui, beaucoup de questions ouvertes, finalement. En résumé, Sophie, que penser des données récoltées ?
Lothar Eicher, qui est chercheur au Centre Suisse de Toxicologie Appliquée à Bâle, a bien voulu se pencher pour nous sur les résultats d'analyse, et je vous propose d'écouter ses conclusions.
Pour la plupart des substances évaluées, les données toxicologiques indiquent que les concentrations trouvées ne présentent aucun risque pour la santé humaine. J'ai examiné cette analyse et sur la base de ces données, je n'ai trouvé aucune raison de s'inquiéter. Si l'on passe en revue ce tableau des 65 substances, on a souvent des facteurs de sécurité de niveau 1000 10 000 et plus parfois, même 500
000.
Ça signifie qu'il s'agit de substances présentes dans l'eau potable à des concentrations extrêmement faibles.
Comment vous avez procédé pour déterminer l'innocuité ou pas de ces
micropolluants ?
Nous avons examiné les valeurs limites fixées par des autorités nationales ou internationales, puis nous avons comparé ces valeurs limites, donc la quantité maximale autorisée ingérable par une personne, à la quantité qu'une personne ingérerait effectivement si elle buvait l'eau du robinet. Nous avons alors constaté qu'entre la quantité ingérée en buvant cette eau et les valeurs limites maximales fixées par la loi pour les substances étrangères dans l'eau, il y a un écart important.
Donc, pour Lotta Reicher, aucun risque.
Oui, pour les données connues. Mais enfin, je vous rappelle quand même qu'il reste 12 substances pour lesquelles on n'a pas de données. Et puis, sur l'effet cocktail, Lotta Reicher considère que cette question fait toujours débat au plan international et national. Donc, en conclusion, il faut quand même prendre en compte que notre mode de vie implique une certaine prise de risque.
Dans l'idéal, bien sûr, il est toujours souhaitable de ne pas avoir de risque. Dans la pratique, ce n'est pas possible, car nous vivons dans un monde fortement industrialisé où les produits chimiques jouent un rôle important. Nous aurons toujours des substances chimiques autour de nous, nous ne pouvons pas l'empêcher complètement. Donc, en tant que société, nous devons nous demander quel est pour nous le bénéfice de ces substances chimiques. Il faut déterminer si leurs avantages sont plus grands pour l'humanité que leurs inconvénients potentiels. Et si la société décide que le bénéfice est grand parce que ces substances chimiques nous permettent de fabriquer certains produits, alors il faut prendre certains risques.
Et que répondent les distributeurs d'eau dans les villes concernées, Sophie ?
À Genève, on l'a vu, il y a très peu de traces, hein, mais on en relève quand même une dizaine. Hervé Guinan, responsable qualité de l'eau au service industriel de Genève, est plutôt satisfait des analyses et donc du traitement de l'eau potable. Je lui ai demandé de réagir néanmoins à l'article 275, dont on parlait tout à l'heure, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, qui stipule que l'eau potable doit être salubre sur tous les plans.
Oui, en effet, ça fait partie de la mission des services industriels et des distributeurs d'eau potable en Suisse, notamment de respecter la législation et la loi sur les denrées alimentaires. C'est ce qu'on s'emploie à faire à Genève, notamment, puisqu'on procède à plus de 10 000 prélèvements par année, 100 000 analyses par année, et notamment sur les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et autres micropolluants, ce qui nous permet de distribuer une eau conforme aux normes sur les denrées alimentaires.
On retrouve quand même des substances indésirables.
Les résultats montrent que seules une soixantaine ont été retrouvées dans les eaux brutes, hein, avant traitement, dans des concentrations infinitésimales de l'ordre du nanogramme, c'est-à-dire du milliardième, ce qui peut correspondre, pour illustrer ceci, à 1 gramme de sucre à peu près mélangé dans 400 piscine olympique.
Dans les eaux brutes, donc à peu près 60 substances sont retrouvées et puis une dizaine après traitement. Ça, c'est pour Genève. Et puis pour Lausanne, où des substances en plus grand nombre ont été trouvées, la réaction de Sylvie Truffert, ingénieure chimiste et responsable de la communication au service des eaux de Lausanne.
Pour la majorité des composés qu'on retrouve dans l'eau, les critères ont été définis. Mais simplement, pour un bon nombre d'entre eux, qu'on retrouve maintenant grâce à des moyens ou des techniques analytiques très sophistiquées, il n'existe pas, en fait, de normes ou de critères d'appréciation.
Parce que ces normes, elles ont été élaborées quand ?
Elles ont été mises en place donc, par l'Office fédéral de la santé publique. Hein, donc, la loi sur les denrées alimentaires a été révisée récemment, mais elle n'arrive pas à prendre en compte, je pense, l'ensemble des molécules chimiques mises sur le marché et qui peuvent être contenues dans l'une ou l'autre denrées alimentaires, ça c'est clair.
Donc finalement, les distributeurs n'ont pas une obligation de proposer une eau pure.
Mais j'allais dire, quelle est votre définition de l'eau pure ?
Ah, voilà.
Hein ?
Bah, c'est une eau qui fait du bien. On nous dit qu'on doit boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. On imagine que c'est quelque chose qui permet d'éliminer les toxines. Puis d'un autre côté, on sait qu'on va trouver des perturbateurs endocriniens, on va trouver des médicaments, on va trouver des pesticides.
Mais on trouve aussi du calcium, on trouve aussi du magnésium.
Il y a à boire et à manger, là.
Oui, non, mais tout à fait. Le problème de l'eau, c'est que l'eau pure, ce qu'on appelle en tant que chimiste une eau pure, donc H2O et rien d'autre, ça n'existe pas. Donc, on est bien clair.
Oui.
Dans la nature et dans tout notre environnement, l'eau se charge en un tas d'un tas de matières qui sont plus ou moins bénéfiques. Alors, c'est vrai que vous avez tous les sels minéraux qui sont accumulés par le transit à travers les sols. Mais malheureusement, dans les sols, on retrouve aussi autre chose qui est aussi emportée par l'eau. Donc, on retrouve non seulement des sels minéraux, mais aussi de toutes les traces, en fait, des activités humaines. Ce qui fait que de l'eau pure, c'est vrai, on peut discuter longtemps là-dessus,
oui, c'est fantastique.
Mais l'eau pure n'existe pas.
Mais quand on dit eau pure, évidemment, on imagine une eau qui nous fait du bien. C'est vrai que les sels minéraux, ça nous fait du bien.
Voilà.
En revanche, les perturbateurs endocriniens font pas de bien.
D'accord. Alors c'est vrai que pour le distributeur d'eau, nous, ce qu'on a retenu comme définition d'eau pure, c'est une eau potable qui ne contient aucun élément dangereux pour la santé et peut être consommée de ce fait sans risque. Elle doit, comme je vous l'ai dit auparavant, répondre à des critères de qualité qui sont fixés par la loi et qui sont définis selon l'ordonnance sur les denrées alimentaires. Et en plus, troisième point, elle doit pouvoir être obtenue à partir d'une ressource naturelle. Et bon, ben, c'est clair que ça dépend après au niveau de l'épuration, selon la charge de l'eau, de la ressource, elle devra être traitée pour répondre aux critères précédents.
Mais alors, dans cette eau, il y a des antidiabétiques notamment. Ça pose quand même un peu problème, non ?
Écoutez, tout est une histoire, une question de dose. Donc, il faut regarder à quel niveau vous retrouvez, en fait, ces molécules. C'est des traces.
Alors, deux substances posées question à Lausanne, mais sans risque, d'après Sylvie Truffert.
Il n'y en a que deux, je crois, qui dépassent la norme des 100 nanogrammes par litre.
Oui.
Et puis, pour celle-là, on s'est référé donc à l'Office fédéral de la santé publique, on leur a posé la question de savoir si on devait s'inquiéter de retrouver ces deux substances-là à des quantités pareilles.
Mm-hmm.
Et ils nous ont répondu que ce n'était pas le cas. Donc, de ce point de vue-là, on était rassurés.
D'accord.
Alors, on essaye de les minimiser, ça c'est clair.
Mm-hmm.
Et c'est ce qu'on va faire aussi avec notre nouvelle station de traitement à Saint-Sulpice qu'on doit rénover.
Mm-hmm.
C'est d'essayer de trouver la filière de traitement qui nous permettra de minimiser un maximum, en fait, toutes ces substances dans l'eau potable.
Et pour commenter ces résultats, deux invités. Vincent Dudelaire, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci de nous avoir rejoints en duplex de Berne. Vous êtes chef de la section risques chimiques de l'Office fédéral de la santé publique qu'évoquait justement à l'instant Sylvie Truffert, ingénieure chimiste et responsable de la communication au service des eaux de Lausanne. Alors, comme le rapportait Sylvie Truffert, vous avez calmé les inquiétudes du distributeur lausannois. Les doses n'étaient pas inquiétantes, mais comment sont fixées les normes ? En fait, sur quelle base décide-t-on à l'OFSP qu'en dessous de telle dose, on ne risque rien, au-dessus, ça devient plus critique ?
Alors, il faut distinguer deux cas de figure. Le premier cas, c'est lorsqu'une substance est connue et on dispose pour cette substance d'un arsenal d'études toxicologiques expérimentales sur le modèle animal, parfois même sur l'être humain. À partir de ces résultats, on peut calculer une dose, c'est-à-dire une exposition, pour laquelle on n'observe pas d'effet nocif dû à cette substance. C'est ce qu'on considère comme le seuil toxicologique. Avec ce seuil, on y ajoute encore un facteur de sécurité qui peut être de 100, de 1000, pour déterminer une dose journalière tolérable. Ensuite, en prenant une consommation moyenne de 2 litres par jour et par personne, on peut calculer une concentration maximale admissible dans l'eau potable. C'est cette valeur qu'on va fixer dans la législation. Maintenant, c'est clair qu'il existe où on trouve des substances pour lesquelles on ne dispose d'aucune étude toxicologique. Dans ce cas-là, on se réfère à un modèle toxicologique qu'on appelle le modèle TTC, qui est un acronyme anglais pour seuil de préoccupation toxicologique. Et avec cet outil de travail, on peut déterminer, en fait, à nouveau, une valeur limite. Comment est-ce que ça marche ? En fait, on connaît la structure chimique de cette substance sans données toxicologiques, et on la compare avec de nombreuses substances pour lesquelles on dispose de données toxicologiques. À partir de ça, on arrive à déterminer un seuil de toxicologie pour lequel on peut garantir que le risque de visualiser un effet nocif est inférieur à 1 sur 1 million.
Alors, cette question de seuil me pose question quand même. Alors, je sais que certains chercheurs pensent que ma question n'est pas tout à fait pertinente, mais je vais la poser quand même. En Suisse, on reconnaît les effets de l'homéopathie, puisque les traitements sont pris en charge par l'assurance de base. Donc, il ne s'agit même plus de traces, hein, mais de souvenirs, entre guillemets, de traces. Alors, comment on peut prendre en compte l'efficacité de ce qui ne présente même pas de traces de substance? Et puis, d'un autre côté, prétendre que les doses sont trop infimes pour être toxiques ou avoir un quelconque effet?
Alors, il faut bien distinguer les deux choses. Il n'y a en fait pas de contradiction dans l'énoncé. La reconnaissance de l'homéopathie par les caisses maladies, c'est une disposition, une décision politique qui n'implique en aucune façon la reconnaissance scientifique de l'efficacité du traitement. Dans le second cas de votre énoncé, c'est le seuil toxicologique. C'est un modèle scientifique reconnu par la communauté scientifique internationale et qui a été démontré par l'expérience.
Donc voilà, dans un cas c'est scientifique, dans l'autre ça l'est pas, c'est ce que vous nous dites.
Oui, mais l'exemple est intéressant pour comprendre en fait le seuil toxicologique et le concept de dose. Oui. Si vous allez chez un médecin pour faire soigner une maladie, il va vous prescrire un médicament, mais en même temps il va vous fixer une posologie, c'est-à-dire une quantité de la molécule active à prendre par jour. Et il va insister pour que cette posologie soit respectée, parce que cette posologie est importante pour avoir un effet positif, dans ce cas-là, sur votre maladie. Si vous êtes en dessous de cette dose, il y a une forte probabilité pour que le médicament ne fasse plus effet. Et c'est exactement dans cette situation-là que le toxicologue, à l'inverse pour les contaminants, va rechercher cette dose pour laquelle on ne peut observer plus aucun effet nocif.
Également avec nous, un deuxième invité en direct de France, André Sicolella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller scientifique à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. C'est un organe sous la tutelle du ministère français de l'écologie. Vous êtes également président du réseau Environnement Santé. C'est une ONG, on va dire, d'obédience écologique. Alors vous vous intéressez de près aux perturbateurs endocriniens et à ce dont on parlait tout à l'heure avec Sophie Proust, ce fameux effet cocktail. Cet effet cocktail, il existe vraiment selon vous ? Il y a des risques ?
Oui, la question des perturbateurs endocriniens est une question qui est apparue à peu près il y a 20 ans. L'expression a été forgée il y a 20 ans. Ça bouleverse totalement les conceptions de la toxicologie. Vous avez fait référence à Paracels. Eh bien, avec les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est la période qui fait le poison. Le changement de paradigme des perturbateurs endocriniens a été formalisé par la Société d'endocrinologie il y a 3 ans maintenant, et il y a 5 points, et notamment le point concernant les effets cocktails. Il y a un autre point qui est la relation dose-effet. Ce que vos invités ont dit, c'est effectivement les conceptions des années 70, en fait, qui aujourd'hui sont en partie obsolètes, compte tenu de ce que l'on sait sur les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que pour les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas une relation linéaire. C'est souvent une relation en courbe, une cloche inversée, si vous voulez. Donc vous avez des effets plus forts à faible dose qu'à forte dose. Et donc ça, c'est un autre aspect. Et ça n'est pas simplement une vue de l'esprit. J'ai regardé effectivement vos résultats. Si on regarde par exemple la trazine, qui est très présente, eh bien on a une étude en France qui a été faite en Bretagne qui montre une contamination dans un échantillon de femmes qui va jusqu'à 40% en atrazine, alors que l'atrazine est interdite depuis presque 10 ans maintenant. Et donc, ça reste effectivement dans l'environnement, ça contamine suffisamment en tout cas la population. Et qu'est-ce qu'on observe chez ces femmes enceintes? Eh bien, on observe chez les enfants un effet qui est là, un retard de développement. Donc, on a une preuve chez l'homme, très concrètement, sur cet exemple de l'atrazine. Je pourrais développer également l'exemple des perfluorés qu'on trouve très, très fréquemment dans l'eau.
Qu'on a évoqué tout à l'heure d'ailleurs, Sophie Post.
Oui, la contamination par l'eau n'est pas la seule, mais elle contribue à la contamination de l'espèce humaine. On a une étude chez les jeunes Danois qui montre que plus les jeunes Danois sont contaminés en perfluorés, eh bien, plus on observe une baisse de la qualité du sperme.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors, André Sicolella? Est-ce qu'il faut plus boire d'eau du robinet ou faire bouillir l'eau?
N'importe où.
Là, faire bouillir, ça ne changera rien du tout, puisque les perfluorés vont rester, ou l'atrazine. Mais donc, le fond du problème, c'est qu'il faut reconnaître que les perturbateurs endocriniens représentent une nouvelle catégorie. C'est le sens du rapport Kortenkamp qui a été rendu à l'Union européenne en début d'année. On attend une décision de l'Union européenne pour reconnaître effectivement les perturbateurs endocriniens en tant que tels, avec les conséquences qu'il faut en déduire. Du point de vue de la gestion du risque, de l'évaluation du risque, c'est ce que je viens de vous dire, la réglementation actuellement est obsolète. Elle doit être revue, à mon avis, dans la perspective de la directive européenne que l'on attend sur l'eau, la qualité de l'eau, d'ici 2015. Eh bien, les connaissances scientifiques ont évolué, donc c'est tout à fait normal de faire évoluer la réglementation.
Vincent Dudler, faire évoluer la réglementation à l'OFSP, vous allez vous ranger à l'avis de l'Union européenne si l'Union européenne décide de prendre des mesures?
Il est clair que si les autorités internationales prennent des mesures ou change de modèle, on étudiera en fait ces nouvelles dispositions, on les implémentera sans doute dans notre législation.
Et puis alors, il nous reste 30 secondes, André Sicolella, l'eau en bouteille, c'est une solution?
Pas plus, parce que on a une série d'études qui ont été faites par un laboratoire allemand notamment, qui ont tester le potentiel œstrogénique, et bien dans 60% des prélèvements, on avait effectivement un effet significatif.
Donc on a,
pour répondre à votre question précédente, on a des tests qui permettent d'avoir une vision globale. Il faut sortir de la vision substance par substance. Quand vous avez des centaines de substances dans un milieu, vous ne pouvez pas évaluer leur effet global. Il faut des tests qui peuvent répondre à cette question d'évaluer l'effet global. Ça existe et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre.
Merci beaucoup de votre avis, André Sicolella, conseiller scientifique à l'Institut National Français de l'Environnement Industriel et des Risques, et Vincent Dudler, chef de la section risques chimiques de l'OFSP. Bonne journée à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
C'était un dossier préparé par Sophie Proust en collaboration avec nos recherchistes Bastien Fonvis et Suzanne Zimmermann, ainsi que l'appui d'Yves Alain Cornu et d'Anne Flamand pour la traduction. Merci également à nos collègues de Bon à Savoir avec qui nous avons donc mené cette enquête. Vous pouvez la trouver dans le mensuel qui sort aujourd'hui.